mardi matin à tous. Merci beaucoup d'être là. J'espère que vous allez bien, Isabelle, avec vous. Nous allons parler d'énergie ce matin, entre autres en première heure d'émission. Vous savez que le transport du pétrole, vous le savez, ça n'a jamais été autant au cœur de nos vies depuis l'accident de Lac Mégantic début juillet. Et c'est vrai qu'on a été, malheureusement, c'est toujours un peu comme ça que ça fonctionne. On est conscientisé toujours quand il y a quelque chose qui nous pète en plein visage. Et ça a été le cas, donc, à la suite de ces tristes événements. On est plus conscientisé aujourd'hui que jamais sur le transport du pétrole par train. Il y a plein de gens qui ne savaient même pas qu'on transportait notre pétrole par train. Ou c'est quelque chose qu'on savait, mais qu'on avait mis loin dans notre mémoire. Et là, aujourd'hui, on se dit, bon, c'est peut-être pas la meilleure idée. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus écologique et surtout de plus sécuritaire. Qu'est-ce qui nous reste d'autre? Il faut quand même le transporter. On nous a dit aussi depuis ce qui s'est passé à Lac Mégantic que, parce que ça se fait maintenant, hein? Vous savez que si c'est pas par train, ben c'est par camion, que ça soit sur les routes, est-ce que c'est plus sécuritaire? Vous savez, il y a pas de danger zéro non plus. On l'a beaucoup rappelé au cours des dernières semaines. Et là apparaît l'oléoduc comme une solution de rechange. Il y a deux projets d'oléoduc qui se retrouvent au cœur de l'actualité. Vous êtes pas sans savoir ou avoir entendu parler du projet d'Enbridge qui veut utiliser son réseau pour transporter du pétrole de Montréal vers Sarnia, en Ontario. Et il y a l'autre projet, qui est de la compagnie TransCanada, dont vous avez sans doute vu les pages pleines de publicité dans les journaux. TransCanada qui veut transporter, donc, par oléoduc, du pétrole de l'Ouest canadien vers la côte Est, en passant, donc, logiquement, par le Québec. Ça serait du pétrole brut, issu donc des sables bitumineux et considéré d'ailleurs, faut quand même le rappeler, même si j'ai un écologiste avec moi ce matin qui va sans doute se faire un plaisir de le faire, je rappelle quand même que beaucoup de gens, qu'au Québec, disent que ce pétrole des sables bitumineux, c'est du pétrole sale. Donc, ce dernier projet de l'oléoduc, loin de faire l'unanimité, crée beaucoup de questions. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous envoyaient des messages là-dessus, qui disent « Faites donc la lumière un peu là-dessus, on comprend pas. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon. » Il y en a qui disent oui, c'est bon pour l'économie, d'autres qui disent c'est pas bon pour l'écologie, puis à moyen et long terme, on va se faire prendre là-dedans. Il y a eu des gros problèmes aux États-Unis. Bref, on va en parler ce matin, puis je vais vous poser la question directement. Vous allez pouvoir nous joindre comme d'habitude via nos numéros 514-790-9850, sans frais bien sûr de toutes les régions, parce que ça touche tout le monde, hein. On va parler du tracé, entre autres, ça peut passer dans votre région au Québec. Sans frais de partout, vous faites le 1-866-790 098-50. En bout de ligne, est-ce que du pétrole de l'Ouest, des sables bitumineux, vous trouvez que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on devrait donc utiliser les oléoducs? Pour en parler, Yuri Chassin, qui est économiste à l'Institut économique de Montréal. Merci beaucoup d'être là, Yuri.
Bonjour.
Et Stephen Guilbeault, qui est porte-parole d'Équiterre. Merci beaucoup, Monsieur Guilbeault, d'être là. Équiterre est depuis le début contre les projets d'oléoducs. Dites-nous, rappelez-nous pourquoi, Stephen Guilbeault?
Mais parce que contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, ce n'est pas un mode de transport qui est sécuritaire. Alors, oui, on transporte beaucoup de pétrole par train. Faut comprendre que le camion, c'est au niveau régional, hein. On transporte pas du pétrole par camion sur des très grandes distances.
Alors, mais quand même!
C'est surtout pour la livraison, ouais. Au niveau régional, les stations d'essence, tout ça. Donc, beaucoup au niveau de la distribution, en fait, on pourrait dire plus que le transport. Et selon l'Agence internationale de l'énergie, qui est certainement pas un acteur qu'on peut qualifier d'avoir un parti pris là-dedans, il y a effectivement plus d'accidents en train que par pipeline, mais les pipelines déversent trois fois plus au total de quantité de pétrole déversé. Si on parle d'Enbridge, par exemple, en moyenne, au cours des cinq dernières années, les déversements moyens d'Enbridge, c'est 1,9 million de litres par année.
Ça représente...
À tous les trois ans, Enbridge recrée l'accident du lac Mégantic. En termes de pétrole déversé, le lac Mégantic, c'est le plus grand déversement dans l'histoire du continent nord-américain. Avant ça, c'est Enbridge qui détenait le record pour un accident au Michigan en 2010, donc 3,7 millions de litres de pétrole. Mais donc, en moyenne, Enbridge, 1,9 million de litres par année de déversion. On parle d'une compagnie, on ne parle pas de toutes les compagnies de pipeline en Amérique du Nord. On parle d'une compagnie.
Wow! Répétez-moi ça encore!
1,9 million de litres. Et ça, là, je n'ai pas inventé ces chiffres-là. Les gens peuvent aller voir, c'est dans le, croyez-le ou non, c'est dans le rapport sur le développement durable d'Enbridge qu'on peut télécharger gratuitement sur leur site Internet. C'est là que j'ai pris cette information-là. Le nombre d'accidents chez Enbridge a doublé entre 2000 et 2010. On est passé d'à peu près 53 à 93. Donc, en fait,
pourquoi?
Tout à fait doublé. Ben, écoutez, pourquoi? Parce que le profit passe avant tout. Parce que s'il faut couper les coins ronds un peu puis négliger un peu sur la formation de la main-d'œuvre, par exemple, ou la formation en cas d'accident du personnel. D'ailleurs, dans l'accident de 2010, il y a une commission, le Bureau sur la sécurité des
transports. Au Michigan, le fameux Kalamazoo. Ouais.
Le Bureau sur la sécurité des transports des États-Unis d'Amérique a fait une enquête là-dessus. Le rapport est paru l'an passé, en 2012. Et dans leur rapport, et ça aussi, on peut aller voir sur leur site Internet, mm-hmm. ils parlent d'une culture de la négligence en matière de sécurité chez Enbridge.
Ben, c'est ce qu'on a connu à Lac-Mégantic avec la fameuse entreprise aussi.
Ben, exactement. Alors, c'est pour les gens qui pensent
Mais est-ce que le risque vraiment que le pipeline d'Enbridge se rupture sont grands à vos yeux?
Ben, il y a un expert qui s'appelle Richard Cooperwitz, qui est un expert américain, qui a d'ailleurs travaillé avec le Bureau sur la sécurité des transports des États-Unis dans le cas de l'accident du Michigan de 2010, qui a déposé un rapport dans les consultations que tient présentement l'Office national de l'énergie sur le projet d'Enbridge, qui vise, en fait, le pétrole, présentement, il va de Montréal à Sarnia. Et là, ce qu'Enbridge veut faire, c'est renverser le flux de ce pétrole-là, donc qu'il aille de Sarnia jusqu'à Montréal pour qu'on puisse acheminer le pétrole issu des sables bitumineux de l'Alberta jusqu'à Montréal. Et éventuellement, nous on pense, et M. Chassin et moi, on sera peut-être pas d'accord là-dessus, mais on pense que ce qu'Enbridge veut faire, c'est l'exporter. Parce qu'au départ, quand Enbridge a annoncé ce projet-là en 2008, le projet devait se rendre jusqu'à Portland, dans le Maine. Mais donc, il y a présentement des audiences de l'Office national de l'énergie. Et il y a un expert qui a déposé un rapport.
Mais ce rapport-là a été quand même... C'était pas payé par Équiterre, ce rapport?
Non, ce rapport-là était payé par l'Office national de l'énergie. C'est-à-dire que quand il y a des audiences de l'Office national de l'énergie, on peut demander à intervenir. Équiterre a fait ça avec d'autres groupes écologistes de l'Ontario, du Québec et d'ailleurs. Et là, l'Office nous reconnaît le droit d'intervenir. Ensuite, on dit, bon, ben voici les sujets sur lesquels on veut travailler. Et l'Office dit, d'accord, vous pouvez travailler là-dessus. Et là, on dit, voici les gens avec qui on veut travailler, voici le budget qu'on vous soumet.
Donc, c'est un expert indépendant, c'est ça qu'on veut savoir.
Il a fait une expertise.
Il n'y a pas une carte de membre d'Équiterre.
Ça me surprendrait beaucoup. Je ne pense pas qu'on a beaucoup de membres aux États-Unis. J'aimerais ça.
Il y a quand même des écolos, il y en a aux États-Unis, on ne l'a pas inventé ici.
Mais Équiterre n'est pas particulièrement connu aux États-Unis, c'est ce que je voulais dire. Mm-hmm. Mais alors, c'est l'Office national de l'énergie qui payait pour ça, et c'est l'Office national de l'énergie qui a dit, nous sommes d'accord avec le fait que ce monsieur-là fasse un travail, une expertise sur cette enjeu-là. Et lui conclut qu'il y a un risque élevé.
Non, mais vous comprenez ma question.
Oui, tout à fait.
Dans ce genre de dossier, puis d'ailleurs, il y a une étude encore hier qui vient dire, les deux camps, il y a toujours un camp, puis là, chacun vient avec ses études, ses experts et tout, et c'est là où les gens sont un peu... regarde ça puis se dit, ben écoutons, qui a raison? Yuri Jassin, à votre tour de me dire ce que vous en pensez. Vous êtes pour ce genre de projet, donc transport du pétrole de l'Alberta, des sables bitumineux vers le Nouveau-Brunswick en passant par le Québec ou vers carrément le Québec. Vous dites, c'est bon pour notre économie d'utiliser l'oléoduc beaucoup plus que le train.
Ben en fait, c'est certainement, puis je pense que c'est ça le constat qu'il faut faire, hein, c'est que le pétrole va venir de toute façon. Et dans le fond, que le pétrole vienne des sables bitumineux ou d'ailleurs, on en a besoin. Si on peut avoir un accès au pétrole issu des sables bitumineux, il faut à ce moment-là choisir la meilleure façon de le transporter. Et puis, dans le fond, M. Guilbeault, j'écoutais ce que vous disiez, je trouve ça intéressant. Je pense que effectivement, le pipeline est plus sécuritaire parce que les chiffres le montrent dans le passé. Est-ce que c'est parfait? Non. Quand les déversements se font, évidemment, hein, un train, il y a une citerne, donc si la citerne se brise, ben c'est le pétrole qui est dans la citerne, alors qu'un pipeline, ben il y a un flot continu. Donc, il y a effectivement possibilité que le déversement soit plus important. Donc, il y a un peu des nuances à faire. Il y a moins d'accidents de pipeline que de train. Quand il y a un déversement, il est un peu plus grand, dans le fond, en quantité déversée. Par contre, puis il y a un autre critère qui est quand même important, en termes de blessés ou de morts, il n'y en a pas dans les pipelines alors qu'il y en a dans les trains, donc dans les accidents de train. Donc, il faut mesurer tout ça pour, finalement, en tout cas, moi, je conclue qu'il est nettement plus souhaitable d'avoir des pipelines que des trains ou des camions. Donc, je pense qu'il y a vraiment là une réalité pragmatique. On va devoir continuer d'apporter du pétrole au Québec, pour un certain temps, jusqu'à temps qu'on en développe nous-mêmes, par exemple. Et puis, dans ce cas-là, la ligne, par exemple, d'Enbridge, elle est vraiment intéressante parce que c'est pas de renverser le flot, hein, c'est de re-renverser le flot. Mm-hmm. Donc, c'était déjà, dans le fond, là, du pétrole de l'Alberta qu'on recevait jusqu'au début des années 90, qu'on a renversé. Le gouvernement du Québec, à ce moment-là, avait fait un clear.
Pour donner une image aux gens là, qui nous écoutent, c'est comme il y a des vannes, on les a fermées, puis on a... C'est ça, là?
On a changé de bord.
On les a changé de côté,
c'est ça? On a dit, OK, non, mais on va pousser de Montréal vers l'Ontario, ouais. Alors qu'au départ, c'était l'inverse. Puis là, ce qu'on dit, ben, on va revenir à la direction originale. Donc, en quelque sorte, puis je pense que c'est ça qu'il faut bien comprendre, il faut bien comprendre que si on peut permettre à nos raffineries à Montréal, à Québec, puis au Nouveau-Brunswick, d'avoir accès à du pétrole qui provient de l'Alberta plutôt que de l'Algérie, ben c'est un choix qui peut être tout à fait plausible, tout à fait intéressant et tout à fait économique aussi. Mmh, pour l'instant, il y a un différentiel de prix. Hein. On le sait, le baril est plus intéressant en termes de prix quand il vient de l'Alberta que quand il vient de la mer du Nord, par exemple.
Ben, vous en pensez quoi de cette question? Parce qu'effectivement, la publicité de Oléoduc Energy Est qui a attiré mon attention la semaine dernière, ça a posé la question d'où vient notre pétrole? Et on dit au Québec et au Canada Atlantique, plus de 86% du pétrole raffiné ici provient de pays étrangers. Et là, donc, on vante les mérites d'avoir du pétrole qui vient de chez nous. Il y a comme une espèce d'élément
ici.
D'achat local. Comme si, oui, achetons local, c'est ça. Ça, vous devriez être content de ça. Mais dans ce cas-ci, vous ne l'êtes pas.
Non.
Puis on peut comprendre parce que local, je veux bien, mais l'Alberta, c'est loin. Puis il y a comme ce pétrole qui est décrié par la communauté internationale. On a tous vu les images des sables bitumineux.
Moi, je suis allé.
Ouais.
Et j'ai fait le tour du monde. J'ai vu toutes sortes d'exploitations industrielles partout sur la planète. Et il n'y a rien qui arrive à la cheville des sables bitumineux. En termes d'impact écologique, c'est parmi les plus grandes mines à ciel ouvert au monde. Le Canada a maintenant une contribution au patrimoine universel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus juste la Grande Muraille de Chine qu'on peut voir de l'espace. Maintenant, on peut voir les lacs d'eau contaminée des sables bitumineux de l'espace. Alors, il faudrait demander à Monsieur Garneau, Madame Payette, s'ils les ont vus lorsqu'ils étaient dans l'espace. Mais on peut aller voir des photos satellites qui montrent ces lacs-là. Donc, on consomme en Alberta à tous les jours l'équivalent de l'eau potable d'une ville comme Montréal pour produire les sables bitumineux.
Tous les jours?
Tous les jours. Une ville d'à peu près 1,6, 1,8 millions d'habitants. Et là, l'industrie va vous dire, oui, mais on recycle le litre d'eau 3-4 fois. Peut-être, mais vous finissez toujours quand même par consommer à tous les jours 1,6 million de litres. Alors, si vous ne faisiez pas tout ce recyclage-là, ça serait 5, 6 millions de litres par jour. Bravo. Mais c'est quand même l'équivalent de la consommation d'eau potable de la deuxième plus grande ville du Canada et une des plus grandes villes en Amérique du Nord. Je suis pas d'accord avec ça. Les gens doivent comprendre que si on dit oui à ces projets de pipeline-là, il y aura pas moins de trains qui vont passer dans nos villes et dans nos villages. Il y aura pas moins de camions sur nos routes. Pourquoi? Parce que ces projets de pipeline ne visent pas à remplacer le train qui transporte présentement du pétrole.
C'est ce qu'on nous dit.
Non, ces projets-là visent à permettre l'augmentation de la production des sables bitumineux de l'Alberta. Allez voir toutes les déclarations du gouvernement albertain, des compagnies de sables bitumineux, du gouvernement fédéral. On veut doubler, voire tripler au cours des prochaines années, la production de sables bitumineux. Et on ne peut pas faire ça avec des trains. Parce que les trains, ils peuvent pas déplacer suffisamment de pétrole. Ça prend des pipelines. C'est pas pour rien qu'il y a un projet, le projet Keystone XL vers les États-Unis, le projet Northern Gateway d'Enbridge vers la côte ouest et les deux projets d'Enbridge et TransCanada vers l'est. Parce que ça prend des pipelines. Pas de pipeline, pas d'expansion des sables bitumineux. C'est aussi simple que ça.
Comme M. Jacin, sans doute, qui va nous le dire après la pause, pas d'économie non plus sans quelques, il faut accepter de faire des concessions. Je vais poser la question à nos auditeurs, voir ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils comprennent de ça et surtout ce qu'ils souhaitent véritablement. Est-ce que les projets de l'oléoduc vous paraissent quelque chose de viable, de sécuritaire, comparativement bien sûr au transport ferroviaire? Là, c'est sûr qu'ici, on est échaudé, on est marqué, 47 victimes. On se dit, ma foi, il y a quand même des dangers réels. Est-ce que l'oléoduc, finalement, puisqu'il faut quand même le transporter, ce foutu pétrole, qu'est-ce que vous voulez, on est encore à l'ère de l'automobile. On n'a pas d'auto électrique à ce point-là. Faudrait peut-être pousser son froid débat la semaine prochaine, mais en attendant, à court terme, c'est du pétrole qu'on utilise. 514-790-9850 et sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Du pétrole albertain pour ou contre? Vous me dites ce que vous en pensez après. Alors, on va aller voir du côté de nos auditeurs ce qu'ils pensent de ces projets de l'oléoduc, du pétrole de l'Ouest en provenance de l'Alberta qui viendrait au Québec et qui passerait aussi par le Québec pour aller desservir, entre autres, les gens du Nouveau-Brunswick. Vous pensez que c'est une bonne idée? Yves, vous, ce qui est intéressant, vous avez déjà travaillé dans l'industrie pétrolière. Vous êtes en faveur de l'utilisation de l'oléoduc.
Absolument. De toute façon, les oléoducs existent depuis plusieurs années. Et puis, c'est connu que des débitmètres, à un certain point de contrôle, s'il y a une fuite qui se produit, la différence de lecture fait que des robinets motorisés vont isoler la section. Fait que c'est très sécuritaire comparé à le train.
Oui, mais bon, écoutez, là-dessus, évidemment, je suis pas une experte, mais ce que les experts disent, c'est que, par exemple, si on parle de d'Enbridge, il y a quand même une infrastructure qui est vieillissante. Ça fait au moins, ça fait quoi, 40 ans, Stephen Guilbeault, que ça,
ouais,
il date
à peu près 40 ans.
Bon,
oui.
Y en a qui disent que c'est comme un pont, éventuellement, il faut que ça soit remplacé, il faut que ça soit aussi, il faut que ça soit vérifié. Vous disiez qu'il y avait quand même une certaine négligence.
Alors, en fait, c'est pas moi qui le dis, c'est le Bureau sur la sécurité des transports des États-Unis d'Amérique. J'invite les gens à aller lire le rapport, ou le sommaire, là, le rapport fait 200 quelques pages, mais le sommaire qui tient sur quelques pages résume assez bien ce que
dit Yves. Est-ce que ça vous convainc, par exemple?
Non,
le fait qu'il y a un débit maître?
Pas du tout, parce que dans le cas de l'accident de Kalamazoo et des déversements annuels de 1,9 million de litres d'Enbridge, ce que dit le Bureau sur la sécurité des transports, et même, en fait, l'Office national de l'énergie, qui s'est rendu compte au début de l'année que 117 des 125 stations de pompage d'Enbridge au Canada étaient non conformes aux règles de sécurité de l'Office national de l'énergie du Canada. Et la dernière fois que j'ai débattu avec quelqu'un de la compagnie de ça, il disait, ils n'avaient pas commencé à mettre en place, enfin, à changer ces stations de pompage-là parce qu'il disait que ça avait une différence d'interprétation avec les règles de sécurité qui était édicté par l'Office national de l'énergie. Donc, il s'astinait avec l'Office national de l'énergie pour décider qui avait raison sur les normes de sécurité. C'est quand même ça s'appelle la déréglementation. Quand M. Harper, comme on l'a vu,
ça s'appelle gagner du temps aussi.
Comme on l'a vu dans l'accident du lac Mégantic, quand le gouvernement fédéral se décharge de ses responsabilités, il dit maintenant c'est à l'entreprise de s'autoréguler. Ben c'est ça que ça donne.
Ouais. C'est pas le cas ici puisque l'Office national de l'énergie a émis un avis là.
Que la compagnie refuse de mettre en vigueur.
Bon, en fait, conteste, ils ont tout à fait le droit de contester, mais il y a eu une réglementation. On ne parle pas de déréglementation ici.
Donc, Yves, quand vous entendez ça, là, que c'est peut-être pas une compagnie super fiable, vous dites, bon, c'est pas grave, on y va quand même avec l'oléoduc.
Je dis pas que c'est pas grave. Je dis oui pour l'oléoduc à la condition qu'on en compte les normes obligatoires, les normes du gouvernement et même les dépasser. Mm. Souvent dans l'industrie pétrolière, pétrochimique. Les usines, les compagnies dépassent les exigences gouvernementales.
Mmh. Ouais, parce que c'est quand même pas des compagnies innocentes non plus. Je pense que la dernière chose qu'une compagnie veut, là, c'est ce qui lui tombe, ce qui est tombé sur la tête à la MMI, là. C'est-à-dire un scandale comme ça qui les ferait faire faillite, non? Il y a pas quelque chose là-dedans, il y a pas une logique économique aussi.
Exactement.
Enbridge, c'est pas une petite compagnie, là.
Si on parle d'une culture défaillante de la sécurité Enbridge, moi je leur suggérais fortement de changer leur modèle parce que ce n'est pas rentable. Donc c'est certainement pas le profit avant tout qui conduit à cette culture-là, parce que ce n'est pas rentable. Donc quand il y a des accidents, la compagnie, elle paye en réputation, elle paye des pénalités financières importantes. Donc c'est certainement pas intéressant et je pense que
Je phraserais pareil si vous me permettez. Oui. Vous avez dit c'est pas le profit qui mène avant tout. Je dirais c'est le profit qui mène avant tout, mais pas forcément au détriment.
Mais c'est ça. Ça mène pas à ces comportements
de l'équité là. Des actionnaires. Donc ce que les actionnaires veulent pas, c'est un problème environnemental.
Absolument.
Où il y aurait mort d'homme.
Regardez la situation financière de MMI là, en ce moment, c'est pas très rose. Hein.
Merci Yves de votre commentaire. Sylvain, vous aussi vous êtes en faveur de l'oléoduc?
Oui, oui, oui. Moi je suis en faveur. Moi, je suis pas comme les anti-tout, là, comme M. Guilbeault, là. On a une production de pétrole ici qu'il faut augmenter et puis il faut la remplacer parce qu'on importe. Moi, je vois ça plus macroéconomique. Là. Mm-hmm. Il faut produire notre pétrole, s'autosuffire, et puis c'est comme ça qu'on va on va arrêter de courir après les autres provinces pour avoir on a de l'argent de leur part.
Mmh. Ouais, là, vous allez dans le dossier à la rigueur Petrolia. Vous savez qu'à Petrolia, on n'a même pas encore installé des ouais, bon, ils ont sans doute des forages de tests, avec, mais on est loin là de la coupe aux lèvres. Là.
Effectivement, avec les anti-tout aussi qui vont lui mettre des embûches dans les roues, puis aux Québécois, à tous les Québécois, là, je peux vous dire qu'ils vont en avoir des problèmes Petrolia. Mmh. Mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air à bien s'en aller. Mais il faut absolument arrêter d'importer notre pétrole. Puis,
Mais pourquoi absolument? Pourquoi vous dites absolument? Pourquoi le pétrole de l'Alberta absolument serait meilleur que le pétrole d'ailleurs?
Parce qu'on le sait qu'on du pétrole, on va en avoir besoin encore pour plus d'une dizaine d'années et plus, là, 15-20 ans. Là. Moi, je suis pas devin, là. Mais moi, je suis quelqu'un qui investit un peu de mes. J'aime regarder un peu les nouvelles technologies. J'ai investi dans des compagnies comme Orbit Aluminé qui est en train de se faire chipper, là. Et puis, j'ai investi dans des compagnies pour le solaire, comme Canadian Solar, des compagnies dans l'éolien. Et puis, là,
donc, vous avez quand même une tendance environnementale aussi.
Définitivement, mais...
Et nous sommes favorables à l'éolien et au solaire, monsieur chez Équitaire. On n'est pas anti-tout. On est anti un certain nombre de choses, mais on est pro un paquet d'autres affaires aussi.
Allons sur vos blogs, puis on va voir que c'est anti-tout. Là. C'est, écoutez, moi, là, en tout cas, je peux vous dire que j'ai fait affaire avec quelques-unes de vos associations, là, puis c'est rien, il y a rien à faire, il y a toujours des arguments pour on comprend, on l'a dit tantôt, Mme Maréchal, vous l'avez dit, le risque zéro n'existe pas.
Mais on aimerait ça que ce soit proche zéro pareil.
Oui, définitivement. Mais je pense que ça, c'est les règles. Ce qu'on devrait plutôt s'attaquer, c'est les règles.
Ouais. Et voilà pourquoi, Sylvain, puis je vous dirais, puis je vais parler à un autre Sylvain, qui, celui-là, n'est pas d'accord avec vous, Sylvain, c'est que les règles, d'accord, si les compagnies les suivent, mais à partir du moment où ça commence à débattre des règles de sécurité en plus, puis à en faire des cas, puis à mettre des avocats là-dedans, où là, ça va prendre des années, et pendant ce temps-là, le pétrole circule, et nous, comme citoyens, on peut juste se croiser les doigts parce qu'on n'a aucune portée là-dessus, c'est là où on est en droit de se poser des questions quand même.